Les mystères du Palais Royal, sixième partie. Chapitre 37. De ce qui se dit dans le carrosse entre l'exempt et la prisonnière. Jusqu'à ce moment, aucune parole n'avait été échangée entre l'exempt et la prisonnière, à l'exception de la courte demande et de la brève réponse rapportée par nous un peu plus haut. Mais voici que tout à coup, tandis que les chevaux gravissaient au pas cette montée rapide dont nous venons de parler, l'exempt poussa un de ces éclats de rire effrayants que nous ne saurions comparer à autre chose qu'au rire satanique de Méphistophélès au moment où il vient de perdre l'âme de Marguerite. En présence de cet accès d'hilarité étrange et sinistre, Antonin Verdi comprit que parmi toutes les terreurs qui l'assaillaient, il y avait encore de la place pour une terreur nouvelle. Cette instinctive épouvante fut d'ailleurs justifiée presque aussitôt. Une voix, qui n'avait plus rien de l'accent guttural de l'exempt, une voix qui fit bondir la prisonnière sur les coussins, s'écria dans l'intérieur du carrosse. « Allons, je crois que c'est bien joué, et que si Antonia Verdi a gagné la première partie, une assez belle revanche ne s'est pas fait attendre. Qu'en pense la fille du diable ?»« Qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous donc ?» balbutia la jeune femme en se demandant si elle était folle ou si le délire de la fièvre ne troublait pas momentanément son cerveau. « Comment qui je suis ?» répondit la voix. « Ah, voilà par exemple une question qui n'est point aimable. Serait-il en vérité possible que la toute gracieuse et toute charmante Hébé refusât de reconnaître ici son époux bien-aimé, qu'elle reconnaissait cependant si bien l'autre jour dans le cabinet du régent ?»« Raoul !» cria la prisonnière avec un indicible effroi. « C'est Raoul ?» « Ah, je suis perdue !»«
Cela me fait tout à fait cet effet-là, je dois vous l'avouer, ma chère, » répondit Raoul.
« Je ne m'abaisserai point à vous implorer, » répondit Antonia.
« Et vous aurez raison, » interrompit Raoul.
« Mais, » poursuivit la jeune femme, « je puis vous demander ce que vous avez résolu de faire de moi ?
Tenez-vous beaucoup à le savoir ?
Refusez-vous de me l'apprendre ?
Oh mon Dieu, non ! Je vais faire de vous ce que vous auriez voulu faire de moi.
« Alors, je vais mourir, » murmura Antonia involontairement.
« Je prends acte de l'aveu, » dit Raoul en riant.
« Eh bien, tuez-moi tout de suite. »«
Oh non !» fit Raoul avec amertume. « Oh non, pas tout de suite.
Je suis en votre pouvoir, et vous voulez ma mort. Pourquoi donc attendre ?»«
Pourquoi ? Vous me demandez pourquoi, ma chère ?»
Je vais vous répondre. J'ai besoin d'être veuf, c'est vrai, mais rien ne presse. Et d'ici au jour où les yeux pleins de larmes et le cœur tout gonflé, j'attacherai à mon bras gauche un long crêpe, d'ici à ce jour, je vous paierai tout ce long arriéré de souffrance et d'angoisse que je vous dois. Cette dette me pèse, elle m'écrase. Je veux m'en débarrasser, enfin. Bref, je ne deviendrai veuf que lorsque la quittance me paraîtra suffisamment bonne et valable.
« Ce qui veut dire que vous allez me torturer. »«
Allons donc, est-ce que vous me prenez pour un bourreau ? Il faut que vous ayez vécu en bien mauvaise compagnie, ma chère, depuis notre séparation, pour avoir pris des idées pareilles. Vous torturez. Ah, fi, je vais vous laisser souffrir, voilà tout. Et cela est bien différent. Que voulez-vous ? Je ne suis pas comme vous et comme le régent, moi. Je n'ai pas une Bastille à ma disposition. » Mais j'y suppléerai de mon mieux, comme vous verrez. Il n'est pas donné à tout le monde de faire les choses grandement. On fait ce qu'on peut. Et vous savez le vieux proverbe, « Qui fait ce qu'il peut, fait ce qu'il doit. »
Raoul se tut. Antonia se roidissait de son mieux contre l'effroi sans bornes que lui inspiraient ces railleries froides de Raoul, sous lesquelles se dissimulaient si peu les projets d'une vengeance implacable. Elle ne mentait point en disant qu'elle aurait voulu mourir à l'instant, car elle comprenait bien que rien ne désarmerait Raoul et qu'il lui réservait un avenir pire que la mort. Il y eut un long silence. Puis M. de la Tremblay reprit, mais d'un ton bien différent de celui qu'il avait eu jusque-là, d'un ton grave, triste, presque solennel. Vous vous êtes crue bien forte, madame, et comme cela arrive souvent aux gens qui se croient forts et qui ne le sont pas, vous avez été bien imprudente.
Est-ce que je vous cherchais, moi ? Est-ce que je me souvenais seulement de votre existence ?
Est-ce que je n'avais pas oublié mon amour foulé aux pieds par vous? Mon bonheur flétri par vous? Mon avenir perdu par vous? J'avais au cœur un autre amour. J'avais conquis un autre bonheur. Je m'étais fait un autre avenir. Je jouissais de tout cela sans penser à vous, l'épouse adultère et fugitive, à vous, l'aventurière et hontée. Je vous le répète, vous teniez si peu de place dans ma vie que je ne daignais même plus conserver à votre égard de la haine ou du mépris, et que si par hasard je vous avais rencontré, j'aurais tâché de ne pas vous reconnaître. Cela était ainsi, madame, et voilà que tout d'un coup, vous venez vous jeter dans mon chemin. Voilà que tout d'un coup, vous voulez me faire obstacle. Voilà que vous vous posez en rival, en ennemi. Voilà que vous vous attaquez à moi. C'était beaucoup déjà, n'est-ce pas? Et vous devez le comprendre. Ce n'était rien encore, pourtant. Voilà que, non contente de vous attaquer à moi, vous vous attaquez à un ange de candeur et d'amour, à la plus adorable incarnation de la chasteté, de la bonté, du dévouement, de toutes les nobles vertus féminines. Voilà que vous allez trouver cet ange, vous, la créature cent fois infâme et cent fois perfide, et vous lui révélez que cet homme qu'elle aime de toute l'ardeur d'un premier, d'un unique amour, cet homme à l'honneur et au serment duquel elle croit comme elle croit en Dieu, vous lui révélez que cet homme est un menteur et un misérable, qu'il l'a trompée lâchement et qu'elle n'a pas le droit de porter un nom qui appartenait déjà à une autre. Vous avez fait cela, madame. Eh bien, par vous, cet ange a pleuré. Par vous, cet ange a souffert. Par vous, cet ange a voulu mourir. Il faudra me payer ses larmes. Il faudra me payer ses douleurs. Il faudra me payer cette lente agonie, interrompue à sa dernière heure par un miracle de Dieu. Et je vous jure que je ne sais pas comment vous acquitterez cet effroyable compte, car tout le sang de vos veines, versé jour par jour et goutte à goutte, n'équivaudrait pas pour moi à une seule des larmes de Jeanne de Chambard. Vous voyez que j'avais raison de vous le dire tout à l'heure. Vous avez été bien imprudente. Et maintenant, croyez-le, madame, l'indignation m'oppresse, mais la colère ne m'aveugle point. Si vous avez quelques paroles à me dire pour votre justification, si vous avez à m'apprendre quelque chose que j'ignore et qui puisse atténuer vos crimes, je vous écoute. Antonia ne répondit point. Raoul, étonné de ce silence, étonné surtout de ne plus entendre ni plainte ni gémissement, chercha dans les ténèbres une des mains de sa prisonnière. Cette main était inerte et glacée. « Si elle est morte, pensa Raoul, tant mieux pour elle. La justice de Dieu aura été plus indulgente que la mienne. » Mais Antonia Verdi n'était pas morte. Elle n'était qu'évanouie. À partir de ce moment, le silence le plus complet régna dans l'intérieur du carrosse jusqu'à l'heure où le postillon arrêta ses chevaux. On était arrivé en face du château de la Baume. La portière fut ouverte, il faisait encore nuit. L'évanouissement de la prisonnière n'avait pas cessé. Les deux prétendus soldats aux gardes descendirent du siège, ils tirèrent de la voiture le corps inanimé d'Antonia Verdi, ils firent avec leurs fusils une sorte de brancard sur lequel ils placèrent ce corps, et ils se dirigèrent, suivis par Raoul, vers l'entrée du manoir en ruine. Le mouvement et aussi l'air vif et froid de la nuit triomphèrent de l'évanouissement d'Antonia. Elle se tordit sur le brancard et elle recommença à pousser des cris et des lamentations inarticulées. « Pourquoi pleurer ainsi, madame ?» lui dit ironiquement Raoul. « Pourquoi pleurer et vous désoler au moment où je vais vous faire les honneurs d'une demeure digne de vous ? Est-ce de cette façon qu'une châtelaine entre dans ses domaines ? Et quels hommes étaient donc messieurs d'Avisac, d'Aubigny et tous ceux que je ne connais pas, pour vous ôter à ce point cette retenue et cette dignité charmante que vous possédiez jadis à un degré si éminent ? » Tandis que le chevalier achevait cette phrase, les porteurs du brancard entraient dans les ruines. Une orfraie, perchée sur les débris d'une muraille croulante, s'envola en poussant un hurlement lugubre. « Heureux présage, madame !» s'écria Raoul. « Heureux présage, vous en conviendrez. Voici un oiseau de bon augure qui vous souhaite la bienvenue. » Les porteurs arrivèrent au milieu de la cour d'honneur. « Monsieur le chevalier ?» demanda l'un d'eux. « Où allons-nous ? » ?»« Dans la tour carrée, mon ami, » répondit Raoul. Les porteurs se remirent en marche. Trois coups furent frappés dans la main. La poterne s'ouvrit. les trois hommes et Antonia Verdi pénétrèrent dans la salle voûtée, que la lampe de fer, suspendue à l'un des murs, éclairait comme de coutume. Chapitre 38. Le cachot. Raoul fixa pendant un instant ses yeux sur le pavé de la salle voûtée. Puis il frappa du pied une large dalle qu'un signe mystérieux, gravé dans la pierre, rendait facilement reconnaissable. Aussitôt, la dalle voisine sembla s'animer et découvrir la naissance d'un escalier tournant de granit. Raoul fit un signe. L'un des deux hommes saisit Antonia, qui n'avait plus même la force de se débattre, et s'enfonça avec elle dans les profondeurs de l'escalier. Raoul le suivit. Nos lecteurs ont-ils oublié les sensations étranges éprouvées par notre héros lorsque, pour la première fois, et guidé par la reine Émeraude, il s'était enfoncé dans les sombres et magnifiques souterrains du château des fantômes, digne sans contredit d'être raconté par la plume lugubre et sincère d'Anne Radcliffe, l'historien célèbre du château du Dolph. À mesure que le jeune homme descendait, des bouffées d'un air chaud et saturé de vapeurs âcres et métalliques venaient par instants le frapper au visage. Il entendait des bruits bizarres. C'étaient des bourdonnements de voix confuses, le bruissement de chaudières gigantesques placées sur des brasiers ardents. C'étaient les sifflements aigus du métal en fusion qui se fige dans l'eau glacée, les retentissements de lourds marteaux, les coups stridents et monotones de balanciers frappant sans relâche. Tous ces bruits, nous le répétons, formaient un ensemble indéfinissable quand on les entendait pour la première fois. Cependant, les marches succédaient aux marches. Il semblait à Raoul qu'il s'enfonçait dans d'incommensurables profondeurs. Peu à peu, des lueurs rouges, semblables à des éclairs dans une nuit sombre, traversèrent les ténèbres. Ces éclairs devinrent si vifs qu'à chacun de leurs rayonnements, Raoul était obligé de fermer les yeux. Soudain, l'escalier tourna. Monsieur de la Tremblay franchit trois marches encore, puis il s'arrêta, pétrifié d'étonnement et d'admiration, en présence du spectacle inouï qui s'offrait à lui. Qu'on se figure en effet d'immenses salles voûtées, dont les arceaux étaient soutenus de distance en distance par de lourds piliers de style roman. De profondes ténèbres envahissaient les parties reculées de ces souterrains. Le centre, au contraire, était vivement éclairé par de grandes lueurs rougeâtres, au milieu desquelles semblait s'agiter une bande de démons. Ici, de noires silhouettes, éclairées à revers par une flamme intermittente, activaient, à l'aide de soufflets gigantesques, le brasier d'un feu de forge. Là, d'autres figures, d'apparence non moins fantastique, remuaient le métal en fusion dans les creusets fumants. Ceux-ci faisaient passer les lingots aux laminoirs. Ceux-là présentaient aux balanciers des flancs tout préparés. Partout régnait une activité étrange et en quelque sorte surnaturelle. Ces hommes étaient les faux-monnayeurs à l'œuvre, semblant apporter leur part de travail à une œuvre infernale et complétant ainsi un spectacle bizarre et terrible qui, certes, eût tenté Salvatore et Rembrandt. Voilà ce qu'avait vu Raoul. Mais rien de tout cela ne frappait ses yeux au moment où nous suivons le jeune homme dans les souterrains avec la malheureuse Antonia Verdi. Les travaux des faux-monnayeurs étaient interrompus et la plus sinistre obscurité régnait sous les interminables voûtes et sous les arceaux romans. Partout le calme de la mort, au lieu du mouvement et de l'agitation de la vie. Partout le silence, au lieu du bruit. À peine si l'on entendait de minute en minute le clapotement faible et lointain d'une goutte d'eau qui tombait des voûtes humides. Raoul, à la faible lueur d'une lampe que portait le second des faux soldats, ouvrit une porte de fer pratiquée dans la muraille. Cette porte était celle d'un couloir qui conduisait aux anciennes prisons du château. Raoul suivit ce couloir pendant une vingtaine de pas, il ouvrit une deuxième porte et il dit « C'est là !» L'homme qui portait Antonia Verdi descendit quelques degrés et entra dans un cachot qui pouvait avoir 12 à 15 pieds de profondeur sur 8 ou 10 de large. Contre les murs appendaient encore des instruments de supplice, des chaînes et des carcans rongés par la rouille. Dans un coin se trouvait un amas de paille à demi pourri. Ce cachot ne recevait d'air que par une étroite ouverture en forme de meurtrière, pratiquée dans la voûte
et prenant son jour sur quelques cours écartés. La prisonnière, qui se trouvait dans un état de prostration absolue, fut étendue sur la paille amoncelée et l'homme sortit du cachot. Raoul, les bras croisés et la lèvre souriante, resta seul sur les plus élevés des degrés.
« Eh bien, Hébé, dit-il alors, eh bien, que pensez-vous de ma revanche ?»
Ces quelques mots rappelèrent Antonia Verdi à elle-même. D'un seul regard, elle envisagea toute l'horreur de sa position. Elle comprit qu'elle ne pouvait trouver une ancre de salut que dans quelque chose de très pathétique. Elle se jeta à genoux et, étendant vers Raoul ses deux mains suppliantes, elle s'écria d'une voix entrecoupée par les sanglots.
« Raoul, ayez pitié de moi. Ne me condamnez pas à ce supplice auquel la mort serait mille fois préférable, à ce supplice hideux de me sentir enfermée vivante et sans espoir dans une tombe éternelle. Oui, oh oui, je suis coupable. Oui, je suis une misérable créature. J'ai commis contre vous des crimes qu'aucun homme ne pardonnerait. Mais soyez plus qu'un homme, Raoul, et pardonnez-moi. Oui, vous aviez raison de me le dire. J'ai foulé aux pieds votre cœur. J'ai trahi votre amour. Mais enfin, vous m'avez aimé. Vous aurez pitié de cette femme dont vos lèvres ont pressé les lèvres. Vous aurez pitié de ce corps auquel vous avez fait si souvent une ceinture de caresses. Raoul, souviens-toi de nos heures d'amour. Souviens-toi des baisers de ton Hébé. Moi aussi, je t'ai aimé. Oh, certes, je t'ai bien aimé. Mais que veux-tu? J'étais faible, j'étais folle, j'avais mal vécu. J'avais reçu de mauvais enseignements. On avait vicié mon cœur et faussé mon âme. Ce n'est pas ma faute, cela, Raoul. Une pauvre enfant abandonnée, sait-elle ce qu'elle fait? Peut-elle prévoir ce qu'elle deviendra? Est-ce que ce ne sont pas des excuses, ce que je te dis là, Raoul? Écoute-moi, je comprends bien que tu aimes une autre femme. Je comprends bien qu'il faut que je sois morte pour que cette femme puisse t'appartenir légitimement. Mais, si tu le veux, je puis vivre et passer pour morte. Je suis prête à signer de mon sang que je renonce à tous mes droits sur toi et que je te laisse libre de te remarier. Et si cela n'est pas suffisant, il y a autre chose. Tu es riche, tu as à toi des hommes dévoués qui t'obéissent comme à Dieu. Fais-moi conduire par l'un de ces hommes de l'autre côté des mers, à l'autre bout du monde. Et là, soit qu'il reste comme gardien, soit qu'il m'abandonne, tu seras certain que je ne reviendrai jamais, que jamais je ne troublerai ton amour et ton bonheur. Je suis si peu de chose, Raoul. Qu'est-ce que cela te fait que je sois vivante et libre? Essaie de me pardonner. Essaie, et peut-être trouveras-tu que le pardon est une plus douce chose que la vengeance. Pourquoi ne me réponds-tu point? Pourquoi tes yeux restent-ils si secs et si durs en me regardant? Tu n'es pas sans pitié, cependant, j'en suis bien sûre. Tu ne me refuseras pas cette grâce que je te demande, au nom de celle que tu aimes. Tu ne vas pas me laisser souffrir et mourir ici. »
Suffoquée par les larmes, étouffée par les sanglots, Antonia se tut. Ainsi qu'elle venait de le constater elle-même, Raoul l'avait écoutée, silencieux, impassible, les yeux secs et le regard dur. « Avez-vous dit tout ce que vous aviez à dire ? » demanda-t-il au bout d'un instant. La prisonnière fit signe que oui. « Tant que vous avez voulu parler, reprit-il, je ne vous ai point interrompu. S'il vous avait plu de continuer, je vous aurais entendu de même. Vous avez fini ? Voici ma réponse. Si vous croyez en Dieu, priez-le de vous pardonner et d'avoir pitié de vous. Car moi, je n'aurai pas pitié et je ne pardonnerai point. » Antonia Verdi poussa un cri déchirant et tomba à la renverse, les bras roidis et le corps secoué par les convulsions du désespoir. Raoul continua. « Je vous ai dit cette nuit qu'à cause de vous, Jeanne de Chambard, ma douce bien-aimée, avait voulu mourir. Pendant 3 jours et pendant 3 nuits, ni une goutte d'eau, ni un morceau de pain n'ont touché ses lèvres. Quand 3 jours et 3 nuits se seront écoulés, on vous apportera de l'eau et du pain. D'ici là, vous souffrirez comme a souffert Jeanne de Chambard. » Raoul se tut. La porte du cachot se referma et Antonia Verdi, plongée dans une obscurité profonde, entendit les verrous grincer et la clé massive tourner avec un bruit sinistre dans la serrure formidable.
Pendant quelques secondes encore, le bruit des pas qui s'éloignaient arriva jusqu'à elle. Puis, ce bruit s'affaiblit, puis une seconde porte se referma. Puis, plus rien. Chapitre 39. Préparatif. On comprend que Raoul avait des projets d'avenir. Ces projets, nous les connaissons, nous, le confident le plus intime des moindres pensées de notre héros, et nous allons les révéler à nos lecteurs. Profondément lassé de cette vie de hasard et d'aventure qu'il menait depuis tant d'années, Raoul désormais ne voyait le bonheur que dans une existence douce et calme, sans péril et sans ambition, dans quelque retraite charmante, dans quelque coin ignoré de tous, auprès de Jeanne, devenue réellement sa femme. Pour que la réalisation de ce rêve devînt possible, il fallait non seulement quitter la France, il fallait encore qu'Hébé eût cessé de vivre. Raoul résolut donc de partir et d'aller se fixer en Angleterre, sous un autre nom que celui qu'il avait porté si longtemps. Quant à Hébé, nous saurons bientôt de quelle façon il voulait agir pour qu'elle ne fût plus un obstacle. 8 ou 10 jours après les événements que nous avons racontés dans les précédents chapitres, Raoul annonça à Jeanne qu'il allait de nouveau s'éloigner d'elle pour 1 ou 2 semaines, mais que cette séparation serait la dernière. Jacques resta chargé de servir la jeune femme et de la défendre au besoin contre tout danger. Il devait, à la moindre alarme, la conduire dans les souterrains et s'échapper avec elle par cette issue mystérieuse dont nous avons déjà parlé dans la précédente partie de ce livre. Jacques avait également reçu la mission de porter chaque jour du pain et de l'eau dans le cachot d'Antonia Verdi. Ses ordres donnés, ses précautions prises, Raoul partit un soir à cheval, parfaitement déguisé et accompagné de 2 hommes sûrs, comme lui, chargés d'or. Ils prirent tous les 3 la route de Normandie. Raoul allait se mettre en quête d'un petit port de mer où il put fréter secrètement une goélette ou un cotre, afin de se ménager un moyen sûr et facile de gagner les côtes d'Angleterre avec Jeanne et avec ceux de ses serviteurs qu'il jugerait convenable d'emmener. Raoul ne pouvait songer à s'embarquer au Havre, où la police devait exercer une surveillance active et où sans doute des ordres le concernant avaient été transmis. Il avait le choix entre les nombreux ports de 4e ou de 5e ordre, dont les jetées brisent les flots de la Manche sur tout le littoral de la Normandie. Il se décida pour Fécamp. Le 5e jour après son départ du château de la Baume, il arrivait dans cette dernière ville. Là, il se donna comme un riche marchand de Rouen, désirant acquérir un navire pour se mettre en communication commerciale avec Bordeaux et avec l'Angleterre. Il acheta à un armateur un fort joli cotre, presque neuf. Il le paya comptant et il engagea sur le champ un équipage de 5 hommes. De l'habileté et de l'honnêteté desquels le syndic des gens de mer lui rendit le meilleur témoignage. Ceci fait, et le petit navire se trouvant en état d'appareiller, non pas même du jour au lendemain, mais d'une heure à l'autre, Raoul se remit en route pour aller rejoindre Jeanne. Au moment où il mit pied à terre en vue du château des fantômes, son absence avait duré précisément 11 jours. « Tout va-t-il bien ici ?» demanda Raoul à Jacques qui vint le recevoir. « Oui, monsieur le chevalier, tout va bien. » « Madame de la Tremblay se porte à merveille et attend monsieur le chevalier avec impatience. » « La prisonnière, je ne l'ai laissée manquer ni d'eau ni de pain. Elle semble calme et ne m'a pas adressé la parole une seule fois depuis le départ de monsieur le chevalier. » « Elle a raison d'être calme, car bientôt elle aura cessé de souffrir. » « Monsieur le chevalier compte la délivrer ?» demanda Jacques avec étonnement. « Oui, » répondit Raoul avec un étrange sourire. « Oui, je compte la délivrer. » Puis il ajouta, « Préviens nos hommes que j'ai à leur parler et que dans 2 heures, il faut qu'ils soient réunis tous sans exception dans le grand souterrain. »« Oui, monsieur le chevalier. » Raoul entra dans la tour carrée et monta auprès de Jeanne, tandis que le valet allait s'acquitter de sa commission. 2 heures après ce moment, les faux monnayeurs se trouvaient au grand complet dans l'endroit désigné par leur chef suprême. Ce dernier ne se fit pas attendre. « Mes amis, leur dit-il, notre association, si florissante jusqu'à présent, touche à son terme. les puissantes protections qui nous étayaient et qui nous permettaient d'exister et de braver tous les suppôts du lieutenant de police, se sont écroulées. Je sais, d'une façon malheureusement trop certaine, que d'ici à très peu de jours, on viendra nous traquer en ce château, comme on traque une bande de renards dans un terrier, et qu'il ne nous restera que deux alternatives, celle de nous rendre et de périr ignominieusement sur la roue, en place de grève, sous les regards d'une multitude féroce et ivre de joie, ou celle de résister jusqu'au dernier souffle du dernier de nous, et de nous enterrer sous les débris croulants de ces voûtes que nous ferons sauter. Évitons ces extrémités funestes, puisque nous le pouvons encore. Derrière ces grilles, dont voici la clé, il y a, vous le savez, des tonnes d'or. Que chacun de vous prenne de cet or, autant qu'il le voudra, qu'il en prenne assez pour se faire riche. Et ensuite, séparez-vous, et allez où vous conduiront le hasard ou votre fantaisie. Dans 3 jours, j'aurai quitté la France pour n'y plus revenir. Si quelques-uns d'entre vous veulent s'attacher à ma fortune et me suivre, je ne les abandonnerai pas, et partout où j'irai, je les emmènerai avec moi. Décidez donc ce que vous voulez faire, mais décidez-le sur le champ. J'ai dit. Après l'inévitable moment de tumulte qui devait suivre une communication du genre de celle qui venait d'être faite par Raoul, les faux-monnayeurs prirent rapidement leur parti. 2 d'entre eux seulement témoignèrent la volonté de suivre M. de la Tremblée. Les autres préférèrent se disperser. Raoul leur livra la clé de la salle aux tonnes d'or, et tandis qu'ils se ruaient sur ces richesses de mauvais aloi, mais qui n'en étaient pas moins des richesses très réelles, le jeune homme quitta les souterrains. En haut de l'escalier, il trouva Jacques, qui avait assisté, immobile et muet, à la scène précédente. « Je ne te demande même pas si tu pars avec nous, mon ami, » lui dit-il. « Je suis trop sûr de toi pour en pouvoir douter. »« Et Dieu sait que monsieur le chevalier a raison, » s'écria le valet. « Mais puisque nous quittons la France dans 3 jours, je supplie monsieur le chevalier de m'accorder une faveur. »«
Laquelle ?»«
Celle de me dispenser de mon service et de me permettre de m'absenter pendant 24 heures. »«
Où veux-tu donc aller ?»
À Paris.
Y tiens-tu beaucoup?
Oh, monsieur le chevalier, beaucoup.
Affaire de cœur, n'est-ce pas? Fit Raoul en souriant.
Jacques ne répondit point, et Raoul en conclut qu'il avait touché juste.
Si j'hésite à t'accorder la permission que tu me demandes, reprit-il, c'est que je crains qu'à Paris tu ne sois reconnu, et que cela ne te fasse courir quelque danger.
Oh, monsieur le chevalier peut être tranquille. Je serai déguisé jusqu'aux dents, et armé de même.
« Eh bien, va donc.
Quand partiras-tu ? » ?»«
À l'instant. » »«
Et tu reviendras ? » ?»«
Demain soir. » »«
Pas plus tard, n'est-ce pas ? » ?»«
Monsieur le chevalier connaît mon exactitude. » »«
Et non seulement ton exactitude, mais encore ton dévouement, ce qui vaut mieux. » »«
Dois-je porter tout de suite à la prisonnière son pain et son eau pour demain ? » ?»«
Ou monsieur le chevalier s'en chargera-t-il ? » ?»«
Je m'en chargerai. »
Jacques remercia son maître, et après le temps strictement nécessaire pour se faire une figure basanée et ornée de rides profondes, et pour revêtir ce travestissement de vieux soudard que nous connaissons déjà, il monta à cheval et partit. L'immense rapière dont nous avons honorablement parlé battait les flancs de sa monture. Le lendemain, dans la journée, tous les faux-monnayeurs avaient quitté le château de la Baume, à l'exception des 2 hommes qui devaient accompagner notre héros en Angleterre. Les souterrains étaient mornes et déserts. Raoul, déjà en costume de voyage, c'est-à-dire complètement habillé de velours noir, glissa dans la poche de son habit un très petit flacon recouvert de papier noir. Mit sous son bras gauche un énorme pain, prit de la main droite l'anse d'une cruche remplie d'eau et de dimensions peu ordinaires, puis muni d'un lourd trousseau de clés, il descendit dans les souterrains. Il allait, ainsi qu'il s'en était chargé la veille, porter de l'eau et du pain dans le cachot d'Antonia Verdi. Seulement, ce pain et cette eau qu'il portait devaient suffire à la prisonnière, au moins pour 8 jours. Chapitre 40. Raoul et Hébé. Raoul ouvrit la dernière porte, et pendant une seconde, il s'arrêta sur le plus élevé des degrés de pierre qui descendait dans le cachot. Antonia Verdi tourna lentement la tête et regarda Raoul.
« C'est vous, Raoul ? »
dit-elle alors d'une voix méconnaissable et presque indistincte.
« C'est vous ?
Puisque vous êtes venu, au lieu d'envoyer votre valet, c'est qu'un nouveau coup va me frapper. Mais quel qu'il soit, je l'attends sans crainte, car j'ai tant souffert que je ne peux pas souffrir davantage sans mourir. Et la mort, c'est la délivrance. »
« Vous avez raison, Hébé, » répondit Raoul avec calme. « Je vous apporte en effet la délivrance. La porte de ce cachot va se fermer pour ne plus se rouvrir. Vous voyez en ce moment un visage humain pour la dernière fois. »
Tandis que Raoul prononçait ces mots, Antonia Verdi sentait se réveiller en elle cet ardent amour de la vie qui ne s'éteint jamais, même dans le cœur des plus misérables et des plus souffrantes créatures. « Ainsi, balbutia-t-elle en désignant le pain et l'eau et en tremblant de tous ses membres, ainsi, ces provisions, ménagez-les bien, Hébé, elles ne seront pas renouvelées.
Mais alors, ensuite, quand il n'y aura plus rien, ce sera donc la fin? La fin avec toutes ces angoisses et toutes ces tortures? Oh, Raoul, Raoul, serez-vous à ce point sans pitié jusqu'au bout?
Non, car vous éviterez, si vous le voulez, ces souffrances qui vous épouvantent.
Si je le veux? Ah, si je le veux, mais comment?
Raoul tendit à Hébé le petit flacon enveloppé de papier noir.
Ceci, dit-il, est la mort instantanée, foudroyante. Vous voyez qu'il ne tient qu'à vous de ne pas souffrir.
Hébé saisit le flacon d'une main avide, mais presque aussitôt elle le laissa retomber sur la terre humide, en s'écriant
« La mort ? Partout, la mort ! Mais je veux vivre, moi ! Je veux vivre !»
Raoul fit quelques pas vers la porte de sortie.
« Ainsi ? » demanda Hébé haletante. « Tu ne veux pas que je vive ?»«
Je ne le veux pas, » répondit Raoul. Et il gravit la première des marches de l'escalier.
« Eh bien ! » continua Hébé. Puisqu'il faut mourir, je mourrai. Mais avant que tu sois sorti, j'aurai ravivé dans ton cœur une plaie cicatrisée, et je l'aurai rendue saignante. Tu dis que je t'ai fait bien du mal.
Ah, tu ne sais pas tout ce que j'ai fait contre toi.
Souviens-toi de Déborah. Souviens-toi de ta belle juive adorée. Souviens-toi de cette perle d'Israël qui t'apportait en dot sa beauté miraculeuse et ses millions et son amour. »
Raoul s'arrêta et se retourna. Il était pâle. Hébé, les yeux injectés de sang dans son masque livide, ressemblait à quelque génie malfaisant, à quelque démon blasphémant Dieu. Un rire convulsif agitait ses lèvres. Elle reprit.
« Sais-tu ce que j'ai fait ? J'ai tué Déborah. Déborah est morte du poison que je lui versais en l'embrassant. J'ai tué Déborah, entends-tu, Raoul ? J'ai tué Déborah. »
Raoul bondit jusqu'à Hébé en tirant son épée. Mais il s'arrêta au moment d'enfoncer son arme dans le sein de cette effrayante créature, qui d'une voix éteinte murmurait encore
« J'ai tué Déborah, j'ai tué Déborah !»«
Non, non, dit-il, ce sang est trop impur pour le répandre moi-même. » Il renversa sur le sol la cruche qui contenait la provision d'eau. Il brisa d'un coup de talon le flacon rempli de poison. Puis il sortit en s'écriant
« Meurs quand tu pourras, misérable femme, meurs comme un chien, et sois maudite !»
Les lourdes portes se refermèrent. Chapitre 41. Tout est bien qui finit bien. Chapitre 41. Tout est bien qui finit bien. Ce même soir, à la tombée de la nuit, Jacques était de retour au château de la Baume. « Hier, dit-il à Raoul, hier, quand monsieur le chevalier m'a fait l'honneur de me demander ce qui m'appelait à Paris, je n'ai pu lui répondre. Aujourd'hui, l'empêchement qui hier me clouait la langue n'existe plus. »
« Alors, je puis savoir ? » ?»«
Certainement, si toutefois monsieur le chevalier me le demande encore. »
« Je te le demande. »
« Eh bien, voici ma réponse. Jacques présenta respectueusement à son maître une petite boîte soigneusement fermée. Raoul prit la boîte et l'ouvrit. Elle contenait deux longues mèches de crin noir et dur.
« Que diable est-ce cela ? » s'écria Raoul.
« Cela, monsieur le chevalier, » répliqua Jacques modestement, « ce sont les moustaches de Mathias Aubert, surnommé le lynx. »«
Comment ? Il te les a laissées couper ?»«
D'autant plus volontiers, monsieur le chevalier, que j'avais eu la précaution, pour le bien disposer, de lui passer préalablement ma bonne rapière tout au travers du corps. Seulement, j'ai eu le tort grave de désobéir à monsieur le chevalier, et je m'en accuse. »
« Tu m'as désobéi, mon pauvre ami ?
Et en quoi donc ? Monsieur le chevalier m'avait ordonné, si je rencontrais Mathias Aubert, de le tuer par derrière, comme un chien enragé, comme un serpent.
Eh bien ?
Eh bien, je n'en ai pas eu le courage. Je lui ai dit de mettre l'épée à la main, et je l'ai tué par devant. J'espère que monsieur le chevalier me pardonnera. »
Raoul jeta ses bras autour du cou de Jacques et l'embrassa à trois reprises.
Le lendemain, à 10 heures du soir, le moment fixé pour le départ arriva. Raoul avait décidé qu'il était prudent, pour ne point attirer l'attention, de voyager d'abord à cheval et d'aller rejoindre à 8 ou 10 lieues de Saint-Germain un carrosse attelé en poste qui emmènerait à Fécamp tous les fugitifs. En conséquence, Jeanne, habillée en cavalier, Raoul, Jacques et l'un des deux hommes qui partaient aussi pour l'Angleterre se mirent en selle en face du portail ruiné du château des fantômes. Le second des deux hommes était en avant avec le carrosse. Quand la petite cavalcade eut fait 300 pas, Raoul s'aperçut que Jacques ne le suivait pas. Un commencement d'inquiétude allait le faire retourner en arrière lorsque Jacques arriva au grand galop. Raoul se remit en marche. Au moment d'atteindre la lisière de la forêt, au moment de perdre de vue pour toujours l'emplacement où la tour carrée dominait les débris du manoir féodal, Raoul arrêta son cheval et celui de Jeanne. « Cher enfant, dit-il à sa compagne, toi, qu'en ce moment je n'ose appeler que ma sœur, dans quelques jours, tout un passé maudit sera effacé et réparé. Dans quelques jours, tu seras devant Dieu et devant les hommes, mon épouse chaste et bien-aimée. »
« Mais cette femme, demanda Jeanne, cette autre femme. »
Raoul étendit sa main droite vers le château des fantômes. « Elle est là-bas, fit-il, et n'en sortira plus vivante. »
« Oh mon Dieu, que dis-tu ? Que veux-tu dire ? J'ai peur de te comprendre. Je tremble, murmura Jeanne. »
En quelques mots, Raoul lui expliqua tout.
« Mon ami, s'écria la pauvre enfant, je ne veux pas que cette femme meure ainsi. C'est affreux. « Affreux, non, je ne le veux pas, je ne le veux pas. »«
Mais que faire ? » ?»«
Qu'elle soit libre. » »«
Y songes-tu ? C'est une bête fauve qu'Antonia Verdi. Elle nous poursuivrait partout des morsures empoisonnées de sa haine. »«
Que nous importe ? Nous serons assez loin pour la braver. » »«
Mais elle, vivante, tu ne peux pas être ma femme. » »«
Eh bien, si je ne suis pas ta femme, je serai ta sœur. » Je serai ta maîtresse si tu le veux. Mais il faut qu'Antonia vive. Il le faut. Tout au monde, plutôt qu'une telle mort.
Ah, si cette femme mourait de cette façon à cause de moi, je croirais voir partout son image défigurée. Je sens bien que je deviendrais folle d'épouvante.
Va, Raoul, va vite, si tu m'aimes, et délivre-la, je le veux.
Quand la douce voix de Jeanne commandait, Raoul ne savait qu'obéir. Malgré la très profonde amertume qui débordait en lui à la seule pensée de laisser sa vengeance incomplète et de rendre à la lumière un monstre tel qu'Antonia Verdi, la plus perfide et la plus dangereuse de toutes les ennemies, il fallait se soumettre aux ordres de cette jeune reine de Saba, qui était bien véritablement la souveraine de son cœur et de sa volonté. Déjà, il éprenait son cheval afin de dévorer l'espace qui le séparait du château et de revenir plus vite auprès de Jeanne.
« Monsieur le chevalier, » lui cria Jacques d'une voix brisée par une toute-puissante émotion, « où allez-vous ? »
« Tu le vois, » répondit Raoul, « je vais là-bas. »«
Attendez, au nom du ciel, attendez. »
« Pourquoi attendre ? Y a-t-il un danger derrière nous ? « Attendez !» répéta Jacques pour la troisième fois en saisissant la bride du cheval de son maître afin de l'empêcher de faire un seul pas en avant. « Mais enfin !» dit le chevalier. « Qu'y a-t-il ? De par tous les diables, explique-toi » Jacques ne répondit que ce seul mot. « Regardez !» En ce moment, une colonne de flammes, métamorphosant pour une seconde les ruines du château de la Baume en un cratère pareil à celui du Vésuve, sembla jaillir des profondeurs de la terre jusqu'aux profondeurs du firmament. Une détonation retentit, semblable à celle de 300 pièces d'artillerie tirant en même temps. Puis le silence absolu, l'obscurité profonde, succédèrent sans transition aux clartés éblouissantes et aux fracas assourdissants. « Que veut dire cela ? » demanda Raoul éperdu. « Monsieur le chevalier, » répondit Jacques, « je n'ai pas voulu vous laisser un remords qui serait peut-être venu. J'avais fait une traînée et j'ai mis le feu aux poudres. » Raoul revint à la jeune femme qui, muette d'épouvante, cachait son visage entre ses deux petites mains. « Jeanne de la Tremblée, » lui dit-il, « prie pour Antonia Verdi, dont l'âme est en ce moment devant Dieu, son juge suprême. » Notre tâche arrive à son terme. Que dire encore ? Quand le péril est passé, l'intérêt n'existe plus. Cependant, allons jusqu'au bout. De Saint-Germain à Fécamp, le voyage de nos fugitifs se fit sans encombre. De Fécamp à Douvres, la traversée fut heureuse. Raoul, une fois en Angleterre, quitta le nom de la Tremblée, qui n'aurait point manqué d'attirer l'attention sur lui, et reprit celui de Rigaud, qu'il aurait mieux fait sans doute de porter toujours. Ce fut sous ce nom qu'il épousa Jeanne de Chambard, devant un ministre du culte catholique. Il acheta dans le Northumberland une charmante propriété, et il y mena la vie si facile et si douce de gentilhomme fermier. Jacques cessa d'être son valet de chambre pour devenir son intendant et son ami. Intendant fidèle, ami dévoué, chose rare. Raoul aima Jeanne toute sa vie. Jeanne ne cessa point de l'aimer. Ils eurent de nombreux et beaux enfants qui ne surent jamais le premier mot des aventures de leur père. Raoul et Jeanne moururent en même temps l'un que l'autre, dans une vieillesse très avancée, entourés du respect et de l'affection de tous ceux qui les approchaient. La famille Rigaud ne s'est point éteinte. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le très honorable William Raoul Rigaud est un des membres les plus influents de la Chambre des communes. Voulez-vous savoir ce que devint notre excellent et malheureux ami, Don Raymond de Vasconcelos ? Il fit vœu de prendre l'habit et de suivre la règle austère de l'ordre des saints religieux du Mont Carmel, si Dieu le délivrait des nocturnes obsessions de chaque vendredi. Dieu accueillit la prière de Don Raymond, qui mourut en odeur de sainteté. Et maintenant, cher lecteur, maintenant que vous savez tout, j'entends quelques-uns de vous me reprocher d'avoir fait un dénouement immoral en accordant à mon aventurier un bonheur sans doute qu'il ne méritait pas. À ce reproche, qu'ai-je à répondre ? Rien, si ce n'est que le Dieu d'indulgence et de bonté pardonne au repentir, et que du moins, j'aime à le croire, Raoul se repentait de toutes les erreurs de sa jeunesse. Et d'ailleurs, s'il ne priait pas assez, n'avait-il pas à ses côtés un bon ange, une chaste enfant, qui priait pour lui ?